Donc c'est Paul, c'est toujours très dense. Et c'est « Il était une fois ». Il était une fois parce que c'est l'histoire de l'aube du christianisme. Situons le contexte. Nous sommes aux racines du mouvement chrétien. À l'étude des textes, on constate que deux Paul homonymes apparaissent. Ce sont pourtant des personnes bien différentes. En fait, chez Paul, il y en a plus que deux, mais on va déjà se centrer sur ces deux-là. Vers 50-60 de notre ère, le premier Paul, celui des Épîtres, même si certaines ne lui sont pas redevables, est d'abord un théologien de première grandeur. Il est le défenseur de son propre évangile, celui qu'il appelle l'évangile de Dieu. Pour ce Paul, il est donc vital d'obtenir, d'une part, sa reconnaissance en tant qu'apôtre du Christ, et d'autre part, l'obéissance des communautés qu'il a lui-même créées. Ce deuxième objectif génère chez lui une action pastorale intense, action d'organisation et d'édiction des règles de vie des communautés, qui seront les autres thèmes récurrents de ses épîtres. D'ailleurs, l'homme n'est pas tendre avec ses ouailles, souvenons-nous des pauvres Galates qui se feront traiter d'idiots, Galates 3.1, et accusés d'avoir choisi un autre évangile que le sien, Galates 1.6, s'il continue à manger cachère et à se faire circoncire. Le second Paul, celui des Actes, donc 40 ans plus tard, s'apparente plutôt à un représentant du christianisme naissant, établissant des succursales pour le compte d'autorités supérieures. Ici, nous avons bien affaire au Paul des Épîtres. Et pour un théologien, c'en est un. Sacré Paul, en quatre phrases, tout est dit. Du divorce avec la loi juive, aux fondations de ce qui deviendra le christianisme, l'intégralité du matériel idéologique de notre religion est exposée dès le préambule. Tout est dit en quelques mots. Mais quels mots ? D'abord sur Paul lui-même. Il se dit choisi par la divinité pour établir un nouvel évangile par la grâce d'une foi réinventée. Il s'agit là d'une véritable résurrection intellectuelle et spirituelle. Ensuite, il en vient au Messie, le Machia des Juifs, trésor caché des textes juifs, que pourtant, selon Paul, et plus encore, selon les pères de l'Église des siècles suivants, les Juifs n'auront eu ni la grâce de découvrir, ni celle de comprendre. Messie, le trésor caché dont il appartiendra aux chrétiens de s'emparer, ce qui provoquera une fracture sans cesse élargie entre les communautés. Je vous rappelle même qu'à la fin, ce sont les chrétiens qui se revendiquent du verus Israël, donc du véritable Israël. Ensuite, il expose la grâce que fait le Christ en le désignant comme apôtre. Car il le sait, ce statut d'apôtre est déterminant pour le succès de son action missionnaire, non seulement auprès des Juifs de la diaspora, mais aussi et surtout auprès du vaste réservoir de futurs chrétiens que constituent les païens et les craignants Dieu. Les craignants Dieu étant des non-juifs qui respectent la loi et les rituels juifs, à l'exception de la circoncision. Puis, Paul énonce ses deux objectifs, je cite, « conduire à l'obéissance de la foi et à la gloire de son nom tous les peuples chrétiens », c'est-à-dire le strict respect de l'évangile prêché par Paul, ainsi que l'obligation de témoigner et de convertir. Enfin, sa capacité en tant que prêcheur est donc par extension de tous les actes de prêche d'apporter la grâce et la paix de Dieu. Voilà un homme formé à la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art du bien parler et du bien écrire. Mais il fut aussi formé à la dialectique, l'art du bien penser. À l'analyse de ses propos, on constate en effet qu'une notion essentielle nous est présentée de manière récurrente. Il s'agit de la notion de grâce. Qui plus est, Paul la présente sous pratiquement tous les éclairages théologiques. La grâce du choix, il a été choisi. La grâce de la parole portée. La grâce de la foi. Celle de la grâce distribuée. Et pour finir, la grâce de la paix de Dieu. Venons-en au pivot proprement dit de son message, la foi. En cette veille de Noël, je vous propose de nous concentrer sur cette notion de foi, aussi bien pour affiner notre compréhension de la pensée paulinienne que pour nous aider à mieux ressentir celle qui est la nôtre. Parler de la foi, c'est parler de la représentation du divin, de l'image que chacun se fait de Dieu, ainsi que des relations que nous pouvons avoir avec lui. Étant par nature un phénomène intime, la foi, on pourrait penser qu'il en existe autant qu'il existe autant de fois différentes que d'individus différents. En réalité, on peut distinguer trois grandes catégories de foi. Premièrement, la foi culturelle. Il s'agit d'une foi collective, sociologique. C'est un peu comme Obélix, être tombé dans la marmite quand on était petit. La plupart des civilisations anciennes étaient portées à ce type de foi, dans laquelle la nécessité de la divinité était évidente. Et encore à ce jour, c'est toujours le cas pour une grande partie de l'humanité. La figure divine y est souvent perçue comme une entité protectrice puissante à condition de respecter les commandements et les rituels. Selon cette traditionnelle morale de la rétribution, puisqu'on est récompensé si on fait les choses correctement, nous serions ainsi récompensés de notre bon comportement. En second lieu, la foi intellectuelle et spirituelle. Il s'agit là d'une démarche individuelle, de questionnement personnel, souvent destiné à donner un sens au monde. C'est la conclusion du fameux « il n'est pas possible que Dieu n'existe pas ». Cette approche peut d'ailleurs tout à fait se croiser avec une recherche de sagesse, comme l'ont fait, par exemple, le philosophe grec Platon dans son incarnation humaine souffrante des âmes désobéissantes, et comme l'a fait aussi Blaise Pascal, philosophe chrétien du XVIIe, avec son fameux pari sur l'existence de Dieu. Enfin, une troisième catégorie, celle que j'appellerais la foi du sentiment et de la sensation. Il s'agit là d'une foi de révélation, souvent brutale, dans laquelle se concrétise d'un coup la présence de Dieu. Certains, et c'est mon cas, la sentent physiquement. D'autres ont des apparitions, alors là c'est Bernadette à Lourdes, et pour les cas extrêmes, des stigmates corporels, tels que le Padre Pio et François d'Assise. Bien sûr, vous aurez noté que toutes ces catégories ne sont pas figées, elles évoluent et se combinent au cours du chemin vers la lumière de Dieu. Par ailleurs, aucune ne peut être considérée comme supérieure à l'autre ou plus légitime. Il s'agit simplement d'un parcours individuel et chacun fait avec la lumière qui est la sienne. Dans ses propos théologiques, Paul se situe clairement dans la troisième catégorie, celle de la révélation. Et cette révélation est d'une nature bien particulière. Paul est le modèle du chrétien à venir. La grâce, puis la parole, suffisent à lui donner la foi. Dans l'Épître aux Galates, Paul mentionne l'immédiateté de sa révélation, sa connexion directe avec le divin, sans intermédiaire. Tentons de cerner cette foi plus précisément. Son illumination sur le chemin de Damas, celle qui lui fait quitter la loi juive, est une déstabilisation totale, un renversement absolu de toutes ses valeurs et de son système de pensée. La renaissance du juif Paul en Christ est tellement puissante que pourtant, parfaitement formé à la culture grecque dès son enfance, il évite même l'écueil de lâcher la Torah pour retomber dans la sagesse philosophique grecque. Et Paul invente une autre voie, celle de la foi dans le prophète juif Joshua, ressuscité Christ par Dieu, et par la même, énonce-t-il, établi fils de Dieu par l'Esprit Saint. Nous voici au cœur du réacteur. Si Paul défend la foi avant toute chose, c'est bien parce qu'il s'agit d'une foi nouvelle, parfaitement originale. Pourquoi nouvelle ? Parce qu'il s'agit bien là d'un changement complet de l'image de Dieu. Une sorte de troisième voie, à l'écart de celle des Juifs et à l'écart de celle des Grecs. Laissez-moi vous citer Paul dans sa première lettre à la communauté de Corinthe, 1:22-24. Les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent une sagesse. Mais nous prêchons un Messie crucifié, Scandale pour les Juifs, stupidité pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Cette foi nouvelle, comme si les peaux de figue lui étaient tombées des yeux, Paul la vit comme une véritable résurrection. C'est une foi révolutionnaire, une foi de révolution, comme s'il avait fait un tour sur lui-même. Avec cette foi issue de la grâce de Dieu, Paul nous a libérés de notre besoin d'un Dieu protecteur, tout autant que du questionnement philosophique de la pensée grecque. Paul est simplement en Christ, en ce Jésus dont nous allons célébrer la naissance en la date présumée du 25 décembre, période de l'année si chère aux anciens, le fameux Sol Invictus, soleil invaincu, le solstice d'hiver. Mais pour nous, à ce jour, que peut encore signifier cette révolution paulinienne? Est-ce encore un élément de surprise? Est-ce toujours d'actualité? Eh bien, posons-nous la question lucidement. Combien de fois n'avons-nous pas rêvé d'un Dieu qui nous protégerait dans notre vie quotidienne, qui tiendrait au moins la maladie et la souffrance à distance? Bon, pour la mort, il ne faut quand même pas trop demander. Combien de fois n'avons-nous pas hurlé, comme le fit Job dans sa grande plainte à Dieu, lorsque nous voyons autant de violence, autant de maltraitance, y compris sur des enfants si proches du cœur de Jésus? Combien de fois avons-nous ressassé la sempiternelle question de la théodicée? S'il est puissant, Dieu est-il injuste? S'il est juste, est-il tout puissant? Combien de fois n'avons-nous pas pesté contre Dieu et reculé à son appel, comme le fit Jonas avant et après son poisson? Eh bien, ne serait-ce pas autant de fois où nous avons oublié le message de Paul? Dieu est par nature insaisissable. Vouloir le réduire par tentation anthropomorphique à la dimension humaine, c'est oublier la révélation de Paul. Dieu nous donne la grâce, pas la protection, du moins pas celle que nous souhaiterions de prime abord. Et la plus grande de ces grâces est celle de son existence même, de sa prodigieuse présence. Jamais il ne nous abandonne. Nul mérite humain à cela, nulle récompense à une quelconque performance. Nous sommes juste dans la totale générosité de Dieu. D'ailleurs, Paul nous le dit tout au long de ses épîtres. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni masculin, ni féminin. On retrouve cette position un peu de partout. Hein. Galates 3:28, Corinthiens 12:13, première lettre aux Corinthiens 12:13 et Romains 10:12. C'est ce qui fait que Dieu est le Dieu de chaque être et non le Dieu d'une catégorie ou d'un peuple en particulier. C'est ce qui fait que chacun existe devant Dieu, que chacun existe à ses yeux tel qu'il est et non tel qu'il devrait être, indépendamment de ses actions, de ses qualités ou de ses mérites. Chacun est simplement reconnu, Paul dirait justifié. En tout et pour tout. C'est ce qui nous fait naître, renaître en tant que personne. C'est une véritable résurrection du vivant dans l'homme et qui intervient tout au long de la vie. Et celui que Paul appelle fils de Dieu, Christ, est notre lien humain avec Dieu. Mais il est bien plus que cela. Il est celui qui, par sa résurrection, met fin au règne de la morale rétributrice, de celle de la récompense, du donnant-donnant. Christ inaugure bien le royaume, mais c'est le royaume de la gratuité. Vous voyez qu'on retrouve la notion de gratuité. Pourtant, depuis plus de 20 siècles, cette demande de protection n'a jamais cessé. Et la rétribution continue à perfuser dans notre morale et dans nos églises. Christ est celui qui nous fait grandir par une foi adulte, débarrassé des mythes, de la protection et de la certitude. D'ailleurs, ses dernières paroles sur la croix nous posent clairement la question. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il ne s'agit pas d'abandon. Ce que le Fils de l'homme reproche tant à son Père n'est rien d'autre que sa propre incompréhension de l'absence d'intervention directe de Dieu parmi les hommes. Lui qui en a tant fait, voici qu'il reproche à son Père de ne pas faire de miracle. Car Dieu ne nous abandonne pas. Il ne se situe simplement pas dans le champ de l'action humaine. Si nous cherchons Dieu uniquement là où nous sommes capables de le voir, cela revient chercher une paire de lunettes perdues uniquement sous le lampadaire le plus proche, parce que c'est là qu'il y a de la lumière. En fait, Dieu nous manifeste sa prodigieuse présence et nous fait comprendre que nous ne sommes pas seuls. Et plus encore, il nous donne gratuitement sa compassion infinie. Nul besoin de son intervention en la matière. En reconnaissant nos limites humaines, peut-être pouvons-nous simplement l'admettre et l'accueillir au lieu de le chercher. Bien sûr, toujours au prix du doute, mais plus encore, au prix de l'abandon, au prix du lâcher-prise. Cette foi nouvelle, régénérée, nous fait renaître tous les jours, nous ressuscite tous les jours, et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Peut-être même est-ce la bonne nouvelle. Et n'est-ce pas ce que vit Paul ? Ceci dit, honnêtement, notre besoin de protection est tellement grand, tellement archaïque, qu'on aimerait bien des fois un petit coup de main du divin. Pas un miracle complet, non quand même, mais un demi, un tiers, un petit bout de miracle. Nous sommes humains, tellement humains. Alors, et nous, concernant notre foi, que nous reste-t-il de cette période de construction du christianisme ? Durant 2 millénaires, notre civilisation, notre culture, se sont accoutumés à vivre avec ces préceptes de Paul. Progressivement, ils sont devenus plus que familiers. En fait, ils sont devenus la norme. Et dès lors, accoutumés que nous sommes, baignés depuis des milliers d'années de cette eau lustrale des origines, ne perdons-nous pas progressivement de vue la révolution prêchée par Paul, la révolution même incomplète de notre renaissance en Christ, la résurrection qui s'opère en nous, partiellement, chaque jour grâce à sa lumière. Car bien que devenue la norme, les préceptes de Paul n'ont absolument rien de normal. Quel bouleversement, quelle prodigieuse liberté il nous apporte. Nous voici dégagés de la loi. Nous voici dégagés d'une relation donnant-donnant avec le divin. Nous voici sortis de la performance et plus encore de la rétribution. Nous voici débarrassés de l'illusion d'un Dieu protecteur au sens humain du terme. C'est le grand coup de balai fondateur. Et nous nous retrouvons de plein pied dans l'amour de Dieu. Amour gratuit, infusé par la grâce, avec lequel tout devient possible. D'ailleurs, Jésus lui-même ne dit-il pas autre chose à la Samaritaine dans Jean 4, 6 ? Vous vous souvenez ? Jésus lui ordonne « Donne-moi à boire. » Or, l'homme Joshua est bien assez grand pour se servir lui-même au puits s'il a réellement soif. Ce n'est donc pas de l'eau que demande Jésus à la Samaritaine. Sa soif est une soif d'amour divin. Ce qu'il demande, c'est que cette femme prenne soin de lui et que ce faisant, elle laisse toute la place au divin qui est en elle. C'est simplement l'abandon à la grâce divine que Jésus réclame. Tout se tient. La foi est là. La résurrection est là, immédiate. Si nous laissons le divin nous ouvrir les yeux, c'est le début de la véritable jubilation, celle qui se remplit de ce que Dieu nous donne en abondance, qui n'a aucun prix, seulement une valeur incommensurable, la valeur de la vraie vie. Alors, en cette presque veille de Noël, réjouissons-nous. L'Esprit souffle à Paul la bonne nouvelle de la grâce. Dieu nous propose de renaître dans une foi adulte. Et nous, nous fêtons la naissance de Joshua, qui deviendra notre lien humain avec Dieu, notre Rédempteur. Trois bonnes nouvelles d'un coup. Décidément, c'est Noël. Et je voudrais conclure en citant Thomas d'Aquin, qui disait « Le bonheur, c'est continuer à désirer ce qu'on a déjà. » En vous proposant cette version modifiée, « Le bonheur, c'est de découvrir ce qu'on a déjà. » Merci la grâce. Joyeux Noël à tous. Amen.